Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Midia Portis-Guérin avec Virginie Cassagne à la technique et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle, qui tout à l'heure à 10h50 recevra Isabelle Barberis pour vous parler de théâtre contemporain dans les nouveaux chemins. Suite et fin pour nous, ce vendredi d'une semaine sur Hannah Arendt. Au regret que la semaine s'achève, s'ajoute le plaisir néanmoins, l'intérêt, l'impatience d'évoquer aujourd'hui pour vous un livre aussi important que Les origines du totalitarisme et de le faire qui plus est en compagnie de Pierre Bourrets.
Affirmer que le métro de Moscou est le seul qui existe au monde n'est un mensonge qu'aussi longtemps que les bolcheviks n'ont pas le pouvoir de détruire tous les autres. En d'autres termes, mieux que toutes les autres techniques de propagande totalitaire, celle de la prédiction infaillible trahit son objectif ultime de conquête du monde, puisque c'est seulement dans un monde entièrement sous contrôle que le dirigeant totalitaire a la possibilité de réaliser tous ses mensonges et d'avérer toutes ses prophéties. Le langage de la scientificité prophétique répondait aux besoins des masses qui, ayant perdu leur point d'attache dans le monde, étaient prêtes dès lors à être réintégrées au sein de forces éternelles et universellement contraignantes qui, à elles seules, porteraient l'homme, ce nageur, sur les vagues de l'adversité jusqu'au rivage de la sécurité. Nous façonnons la vie de notre peuple et notre législation conformément au verdict de la génétique, disaient les nazis. De même que les bolcheviks assurent leurs fidèles que les forces économiques ont le poids d'un verdict de l'histoire. Par là, ils promettent une victoire indépendante des défaites et des échecs provisoires d'entreprises spécifiques. En effet, les masses, contrairement aux classes, veulent la victoire et le succès en tant que telles, sous leur forme la plus abstraite. Elles ne sont pas liées par ces intérêts spéciaux et collectifs qu'elles sentent nécessaires à leur survie en tant que groupe et que par conséquent, elles peuvent défendre, même en ayant toutes les chances contre elles. Ce qui leur importe, ce n'est pas la cause qui peut être victorieuse ou l'entreprise particulière qui peut être un succès, mais bien davantage, la victoire de n'importe quelle cause et le succès dans n'importe quelle entreprise.
Bonjour Pierre Bourrets.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue en un sens sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est une joie de finir cette semaine sur Hannah Arendt en votre compagnie, si j'ose dire, puisque vous êtes en duplex avec nous depuis New York. Il est fort tôt pour vous d'ailleurs aujourd'hui et je vous remercie d'autant plus d'être en un sens donc avec nous. On vous doit notamment, Pierre Bourrets, je ne cite que cela, mais c'est important, l'édition des origines du totalitarisme et d'Eichmann à Jérusalem en quarto, donc chez Gallimard. De très beaux textes, je dois dire, introductifs. On va commencer cette émission sur les origines du totalitarisme que certains Arendtiens tiennent pour le maître livre d'Hannah Arendt, peut-être à juste titre. Et on commence par ce texte un peu cocasse sur le métro de Moscou et ses prédictions qui ont cette vertu d'être réalisées à la façon dont on façonne la vie d'un peuple. Que vous inspire un tel texte, Pierre Bourrets ?
Il m'inspire le fait que, je crois que vous avez très bien choisi la chose, parce qu'à partir d'un petit exemple, enfin un petit exemple qui est historiquement important, mais un petit fait précis, on voit bien comment Arendt construit en fait tout son raisonnement. On a là une thèse importante qui est le passage des classes qui était la structuration sociale des sociétés modernes et qui culminait dans l'État-nation, aux masses, ce qu'elle appellera les foules, ce qu'elle appellera la populace.
Ou le contraire d'un monde commun pour elle.
C'est-à-dire le contraire d'un monde commun, c'est-à-dire un déracinement, une absence de place dans la société qui en fait finalement une espèce de matériau pour cette manipulation totalitaire, c'est-à-dire cette manière qu'ont les dirigeants totalitaires de fabriquer de grandes fictions, qui au passage d'ailleurs ont très bien marché aussi à l'étranger. Parce que n'a-t-on entendu à l'époque sur le métro de Moscou, dont on disait aussi ici, pas tout à fait à New York, mais plutôt à Paris, qu'il était le meilleur métro du monde, et ça faisait partie des choses que rapportaient les compagnons de route sur l'avenir radieux qui se trouvait à Moscou. Mais en tout cas, l'exemple est parfaitement choisi parce qu'on a là cette grande fiction qui repose sur l'idée d'une prédictibilité de l'avenir, sur une maîtrise scientifique du monde qui a deux versants, qui a deux aspects. L'un à partir des lois de la nature, des lois de la race, et de l'autre côté, des lois de l'histoire.
Alors, précisons quand même, Pierre Bouretz, que ce que vous dites est important sur les compagnons de route. Hein. On va plonger évidemment dans la lettre du texte, c'est l'objet de cette émission et c'est la raison pour laquelle nous commençons donc par un texte. Précisons quand même ce que vous désignez par les compagnons de route. Rappelons par exemple qu'en 1954, de retour de Moscou, Jean-Paul Sartre a cru bon de prédire qu'en 1964, l'Union soviétique aurait, en termes de niveau de vie, rattrapé le niveau de l'Occident. Alors, Jean-Paul Sartre reconnaîtra plus tard avoir explicitement menti en disant cela dans ses entretiens avec Contat en 75. Mais enfin, en 54, Jean-Paul Sartre, avide d'être adoubé par un parti communiste qui le déteste de toute façon, c'est un très mauvais calcul de sa part, s'aventure dans le registre de la prédiction. Et il y a de l'autre côté de la pensée politique, ou plutôt du côté de la pensée politique en l'occurrence, Hannah Arendt et Raymond Aron, qui chacun à leur manière et de façon extrêmement différente s'en prennent explicitement au phénomène totalitaire et en particulier lié à l'Union soviétique.
Absolument. Absolument. La thèse à l'époque est très très mal reçue. On appelle le concept de totalitarisme un concept de guerre froide parce que évidemment, dans le camp progressiste, comme on disait à l'époque, ce qui choquait, c'était de pouvoir mettre en regard, de comparer l'avenir glorieux justement du communisme avec l'abomination nazie. Donc cette idée de les mettre en regard à partir à la fois d'éléments historiques et de critères concernant les formes de gouvernement, les formes de manipulation des foules, c'était évidemment quelque chose qui était combattu très vivement chez les progressistes du monde entier. Et Sartre dira avoir menti. D'autres reconnaîtront avoir été abusés, puisqu'on leur faisait visiter, au fond, une espèce de décor, de château de cartes préparé pour les honorables visiteurs étrangers, écrivains, intellectuels, qui rentraient chez eux pour expliquer, effectivement, qu'il y avait là l'avenir non seulement de l'Union soviétique, mais l'avenir des sociétés modernes, quand elles comprendraient enfin qu'il fallait sortir du règne de la bourgeoisie et du capitalisme par le communisme.
Je rebondis un instant, Pierre Bouretz, sur le terme de société moderne que vous employez ici, puisque c'est un problème que nous n'avons pas véritablement abordé cette semaine, et à regret d'ailleurs. On va plonger dans la structure de ce livre, de ce grand livre, Les origines du totalitarisme, mais avant cela, un point sur la question de la modernité. Hannah Arendt est, me semble-t-il, l'un de ces rares philosophes, l'une de ces rares philosophes qui fait une utilisation réflexive véritablement du concept de modernité, c'est-à-dire qui permet véritablement de le penser. En quels termes, de quelle façon Hannah Arendt qualifie-t-elle la modernité, ce qu'on appelle la modernité à tout bout de champ d'ailleurs?
Oui, et on utilise beaucoup ce concept. La chose est compliquée chez elle. Elle a un rapport compliqué à la modernité en question, c'est-à-dire que d'un côté, elle adhère aux valeurs de la société, disons, libérale, les droits de l'homme.
Tout en se défendant d'être libérale elle-même, d'ailleurs.
Tout en se défendant d'être libérale elle-même. Scholem dira un jour, plus tard dans sa controverse avec elle autour de Eichmann à Jérusalem qu'elle est restée fondamentalement une intellectuelle de la gauche allemande des années 30, c'est-à-dire crypto-marxiste. En l'occurrence, elle n'a jamais été vraiment marxiste, mais elle a été très proche de Rosa Luxembourg, ce qui n'est pas sans intérêt vis-à-vis des origines du totalitarisme, parce que
On y vient,
le
oui.
deuxième chapitre est très inspiré par Rosa Luxembourg. Donc elle a un rapport très ambivalent à la modernité, mais avec très tôt ce sentiment d'une crise de cette modernité, ce sentiment d'une crise qui est une crise sociale, la décomposition de l'État-nation, de la société de classe, qui était née en termes économiques du capitalisme et en termes politiques des grandes révolutions modernes. Et elle a toujours eu très tôt une méfiance vis-à-vis de ce phénomène. Mais elle l'a abordé de manière très différente, parce que dans les origines, c'est une analyse à la fois historique, et puis on essaiera peut-être de déterminer exactement quel est le statut de l'analyse. Mais ensuite, dans son grand livre spéculatif, qui est Conditions de l'homme moderne, elle va reprendre complètement les choses du point de vue d'une anthropologie philosophique. Donc à ce moment-là, sa question ne sera plus où est née la modernité, où elle s'est terminée, à partir de quand elle a été en crise. Sa question, ce sera quelles sont les conditions fondamentales de l'expérience humaine. Et là, elle sera prise de doute sur cette expérience de la modernité qui deviendra un doute vraiment philosophique.
Conditions de l'homme moderne est le grand absent de cette semaine sur Hannah Arendt. On ne pouvait pas parler de tout, il a fallu faire des choix, et en l'occurrence c'était un crève-cœur. Conditions de l'homme moderne, il faut le dire, hein, mêle philosophie politique et morale, réflexion sur l'intériorité de l'homme et sur ses actions, son insertion dans la vie commune. Elle fait appel à Platon, Aristote, Augustin pour éclairer la civilisation contemporaine. Elle développe cette distinction entre la vie contemplative et la vie active partagée entre travail, œuvre et action. C'est un très grand livre là aussi, mais ça n'est pas le sujet du jour. Pierre Bouretz, revenons sur les origines du totalitarisme. Vous avez parlé du luxembourgisme d'Anna Arendt, il me semble, hein, en tout cas son lien au marxisme. Et effectivement, dans les origines du totalitarisme, ce sont trois essais en fait qui ont été collés les uns aux autres, un essai sur l'antisémitisme, un essai sur l'impérialisme et un essai sur le système totalitaire. Et l'essai sur l'impérialisme, dans lequel Hannah Arendt décrit le processus qui a produit les foules amorphes du 19e siècle à partir des phénomènes économiques et politiques, où elle parle d'un surplus de capital qui fait éclater le cadre de l'État-nation, dans ce moment-là, Hannah Arendt est clairement luxembourgiste.
Voilà, alors peut-être il faut un peu réfléchir à la genèse du projet et à sa structure. Je ne dirais pas comme vous qu'il s'agit de trois essais différents, parce que, enfin, trois essais juxtaposés. Une chose est claire, c'est que la première partie sur l'antisémitisme est faite, alors effectivement, un peu de collage de textes qu'elle avait écrits dans les années précédentes, mais les deux parties suivantes ont été écrites dans la foulée, elles ont été écrites de manière continue, et il y a là un problème dont elle ne sortira jamais elle-même. Il y a quelque chose qui est très fascinant dans l'histoire de ce livre, c'est qu'il lui faudra 20 ans pratiquement pour trouver sa forme définitive et notamment sa manière de conclure. Et Arendt était très obsédée par le fait qu'elle n'avait au fond pas maîtrisé complètement la structure de son livre. Elle raconte quelque part dans une lettre, je crois que c'est une lettre à Jaspers, mais j'en suis pas tout à fait sûr, qu'elle, une fois qu'elle a une idée, elle se met à sa machine à écrire, elle écrit et elle ne fait jamais pratiquement plus d'un seul brouillon, d'un seul manuscrit. Alors, je suis content d'être avec vous, évidemment, mais je suis content de l'être à New York, parce que c'est ici qu'elle a écrit le livre. Et il se trouve en plus que je suis juste en face de la New York Public Library, qui est la grande bibliothèque publique de New York, qui est l'équivalent un peu de la Bibliothèque nationale, qui lui ressemble d'ailleurs. Les salles de lecture sont assez proches, ressemblent un peu à celles de la vieille BN, où elle avait aussi travaillé à Paris, où elle avait rencontré Walter Benjamin. Et c'est assez mystérieux la manière dont elle a travaillé. Elle vivait dans des conditions assez dures et je l'ai toujours imaginé justement installée de l'heure d'ouverture à l'heure de la fermeture dans cette librairie publique de New York, probablement aussi dans celle de l'Université de Columbia où elle a eu un petit poste, et accumulant une énorme documentation qui à l'époque n'était quasiment pas composée de sources primaires, mais de tous les grands livres dans trois langues, l'allemand évidemment, le français et l'anglais. Et quand on regarde, on peut regarder le livre, on regarde les notes, quand on regarde les notes qui sont énormes, qui ont une énorme bibliographie, On peut imaginer comment elle a travaillé. Elle a rassemblé des livres, elle s'était installée au milieu, et puis elle avait ses trois grandes idées, et elle les a déroulées avec le sentiment qu'il y avait un lien très fort entre eux, un lien qui est apparu tardivement entre le communisme et le nazisme, parce que les deux premières parties, sur l'antisémitisme, sur l'impérialisme, décrivent la genèse éventuellement du totalitarisme nazi ou des fascismes européens. On verra d'ailleurs éventuellement comment elle pensait qu'elle s'était probablement trompée en voulant essayer de faire justement une analyse des origines du totalitarisme. Elle n'aimait pas le titre de son livre. Et c'est probablement au moment où elle rédigeait la dernière partie, à partir du début de 1949, qu'elle a vraiment eu l'idée de la comparaison, de la mise en regard, ce pourquoi c'est la dernière partie qui s'appelle le totalitarisme, et elle se termine par un 12e chapitre qui s'appelle le totalitarisme au pouvoir. En tout cas, le livre a une très grande unité. Je crois qu'il faut le lire dans la continuité, non pas en pensant qu'il s'agit de trois livres différents. C'est très difficile pour le public français, parce que jusqu'à la publication du volume quarto, il y a 5 ans, je crois maintenant, le livre avait toujours vécu en trois volumes différents. Et donc le public français l'a toujours reçu justement comme trois livres différents, un livre sur l'antisémitisme, un livre sur l'impérialisme, un livre sur le totalitarisme. Alors que je crois qu'il faut vraiment se lancer dans la lecture de ce livre.
En assumant l'élan commun de ces trois temps.
Voilà, en assumant l'élan commun, en assumant la progression de l'analyse, en assumant aussi les défauts, en particulier, je crois, des deux premières parties, mais aussi presque pour des raisons littéraires. Mary McCarthy, quand elle a eu le livre, lui a dit « c'est fascinant, ça se lit comme un roman ». Alors à l'époque, c'était un compliment d'une romancière à une intellectuelle. Elles se connaissaient à peine à ce moment-là. Elles deviendront extrêmement amies après, mais je crois qu'elles s'étaient vues 3 fois à ce moment-là. Donc ça pourrait passer pour une sorte de gentillesse un peu mondaine. En réalité, je crois que Mary McCarthy avait vu quelque chose de très fort, c'est qu'il y a une structure narrative, ou en tout cas Arendt veut une structure narrative pour son livre. Il y en a une. Il y a des aspects presque romanesques et au fond des spécialistes des différentes questions pourraient dire qu'elle romance beaucoup les choses. Et chose plus importante, elle pensait fondamentalement et déjà à l'époque qu'au fond les historiens avaient moins à dire sur l'expérience humaine que les grands écrivains. Et elle n'a jamais été une très grande styliste, mais elle croyait vraiment que raconter l'histoire, c'était raconter une histoire et que les grands écrivains percevaient souvent, décrivaient, restituaient quelque chose de l'expérience humaine de plus profond, de plus intime que les grands historiens. Elle avait une fascination pour Faulkner notamment et en particulier pour un livre de Faulkner qui est mal connu et qui a toujours été mal reçu en France, qui s'appelle en français Parabole, qui est un livre sur la guerre de 14. Et elle disait, il y a dans ce livre-là, plus que dans tous les livres d'histoire qui ont été écrits sur cet événement, on en apprendra plus, on en comprendra plus sur la guerre de 1914-1918 en lisant ce grand roman de Faulkner qu'en lisant beaucoup d'historiens. Et ça renvoie aussi à un problème sur la méthode du livre, qu'elle a beaucoup discuté, qui fait aussi qu'elle n'était pas contente des titres et que le livre a eu 3 titres différents.
Est-ce que, Pierre Bourette, la dimension romanesque d'Alain Rennes, juste une toute petite parenthèse, on en parlait avant-hier avec Catherine Chalier quand on évoquait Eichmann à Jérusalem,
oui.
Est-ce que sa dimension romanesque n'apparaît pas justement dans l'aptitude qui est la sienne à proposer un schéma explicatif ou à faire en tout cas d'Eichmann un personnage dont la déconcertante humanité impose justement de réfléchir sur l'humain qu'il était. Est-ce qu'au fond ça n'est pas également là la parole d'une romancière qui n'aurait pas écrit de roman, mais qui assumerait en romancière qu'elle aurait pu être, en un sens, de plonger dans les arcanes, pour employer un mot qui lui est cher et qu'elle emploie en général en latin, dans les secrets, dans les arcanes, d'un individu et de sa banalité, de son humanité.
On peut dire ça, je ne suis pas sûr que ce soit pour le livre sur Eichmann, que l'image soit la plus forte. Je crois qu'elle parle mieux pour les origines. Eichmann, c'est très compliqué ce qu'elle voulait faire. Hein. Elle a toujours dit c'est un reportage, donc elle mettait quand même en avant davantage l'objectivité de son récit. Elle voulait un récit objectif. C'est un livre qui est nourri de sources primaires, en partie des minutes du procès. Donc là, elle avait une exigence d'objectivité. On peut se dire qu'effectivement, à mon avis, un peu ce qui l'a égarée dans son analyse, c'est que oui, elle, à force de vouloir saisir l'intimité d'un être, avec en plus quand même une idée un peu polémique derrière la tête, elle, là, moi je dirais plutôt, elle a romancé, mais au sens plutôt péjoratif. Alors que je pense que dans les origines, il y a un souffle, et on pourra se poser la question de savoir comment ce livre a survécu à son époque. C'était très loin d'être évident que ce soit un livre qui survit. Il avait en quelque sorte toutes les chances de disparaître avec son époque, et aujourd'hui, il continue d'être dans toutes les librairies.
Bah, il disparaît de moins en moins.
Il disparaît de moins en moins.
Et vous n'y êtes pas pour rien, d'ailleurs, Pierre Bourette.
Oui, mais ça, c'est pas le problème. Ce qui est vrai, c'est que ce livre avait tout pour disparaître. Les adversaires du concept de totalitarisme disaient c'est un concept de guerre froide. Ça avait quelque chose de vrai qui aurait pu entraîner le fait que cet énorme livre deviennent un peu démodés avec la fin des systèmes totalitaires. Donc de ce point de vue-là, il avait un risque de ne pas survivre. Il avait un risque de ne pas survivre par un peu son absence de scientificité, par le fait qu'il y aurait ensuite des grands livres sur le stalinisme, des grands livres sur le nazisme, et que ça pouvait périmer cette analyse. Il avait aussi peut-être un risque de disparaître dans le corpus arendtien pour être supplanté, par exemple, par Les origines de l'homme moderne, qui est un livre philosophique
La
plus
condition de l'homme
classique.
moderne.
Oui, pardon, La condition de l'homme moderne, qui est un livre beaucoup plus classique, donc on aurait pu penser que c'est ce livre-là qui survivrait davantage. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de gens qui continuent de lire Les origines du totalitarisme que Conditions de l'homme moderne. Je crois que ce livre, ça, je l'ai vérifié, il est dans toutes les bonnes librairies à Paris, il est dans toutes les bonnes librairies à Berlin, il est dans toutes les bonnes librairies à New York. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut le faire lire à des étudiants, ce qui n'est pas évident. J'ai fait plusieurs fois l'expérience, c'est pas évident de donner à ces étudiants cet énorme livre sur une époque qui est un peu au purgatoire de l'histoire, hein, qui est refroidie et qui n'est plus du présent et qui n'est pas encore devenue suffisamment lointaine pour être un objet historique universel, comme, je sais pas, c'est pas comme la Révolution française, par exemple, ou les grandes révolutions modernes. On arrive à faire lire ce livre à des étudiants, ce qui est quand même une très bonne preuve du fait qu'il a survécu à ce qui était vraiment pas évident. Je crois qu'on aurait facilement pu parier, disons 10 ans après la parution du livre, au début des années 60, on n'aurait pas forcément parié sur le fait que ce livre survivrait non seulement à la vie d'Arendt, mais à l'époque dont il parle. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et pour revenir à la question, je crois qu'une des raisons pour laquelle il continue d'être lu, c'est qu'il y a une sorte d'énergie intellectuelle, une sorte de passion intellectuelle, une sorte de rage intellectuelle. Jaspers parlera de la terrible colère qu'il y a dans ce livre. Il a profondément raison. Et je crois que c'est ça la force. Alors, romanesque, le terme, si on l'utilise trop, va finir par devenir un peu péjoratif, mais la force littéraire du livre. Ce qui est paradoxal parce qu'il n'est pas très bien écrit, par ailleurs.
Revenons-en à la question de l'impérialisme, justement, et
Oui.
au luxembourgisme inattendu de Hannah Arendt, ce que peu de gens savent, au fond, dans l'analyse qu'elle propose de la question de l'impérialisme. Dans quelle mesure Hannah Arendt est-elle ici une lectrice, et en un sens, je mets le mot entre guillemets, une disciple de Rosa Luxembourg?
C'était une grande fascination de jeunesse. Elle racontait d'ailleurs que sa mère avait une très grande admiration pour Rosa Luxembourg. Elle a dû lire ses textes très tôt. Elle avait une fascination pour le personnage, je crois, parce que c'était une femme dans un monde de la politique de l'époque qui était un monde très masculin, même si Arendt n'était pas particulièrement féministe. Mais je crois qu'il y avait une sorte d'affinité entre elles et une affinité quand même de sensibilité politique. Ce qu'elle aimait chez Luxembourg par rapport au marxisme classique, et notamment au marxisme de l'époque en Allemagne dans les années 30, c'est que la grande thèse de Rosa Luxembourg, c'était la thèse de la spontanéité révolutionnaire. C'était la défense des soviets, de l'expérience des soviets contre la réification bureaucratique. Là, en l'occurrence, c'est pas ça qui l'intéresse. Ça, c'est une thèse qu'on retrouvera dans l'essai sur la Révolution, 15 ans, oui, 15 ans plus tard. Là, elle prend chez Rosa Luxembourg ce qui est un peu l'adaptation au problème de l'impérialisme du 19e siècle, d'une thèse marxiste qui est simple, hein, au fond, qui est, si on regarde de près le squelette intellectuelle, presque scientifique de la seconde partie sur l'impérialisme, c'est une thèse qui est très simple, hein, c'est que à partir du milieu du 19e siècle, la bourgeoisie capitaliste, les États-nations européens produisent un surplus de capital qui fait qu'elles ont besoin de trouver un marché, de trouver un univers économique qui déborde l'État-nation et que ça va faire une sorte d'explosion à la fois économique et aussi sociale, parce que du coup, dans une alternance de dynamisme économique, de production de surplus de capital qui va ouvrir des marchés absolument infinis, et de décomposition de la société, de l'État-nation moderne, de la décomposition des structures de classe, ça va générer des populations déracinées, du sorte de qui allaient de d'aventuriers un peu obscurs jusqu'à ce qu'elle appelle elle-même les déchets des sociétés occidentales, qui allaient courir cette aventure de l'impérialisme. Et donc elle y voit à la fois une espèce de grande structure historique qui est thèse marxiste, hein, exportation d'un surplus de capital, et sur l'aspect plus humain des choses, elle utilise très bien, par exemple, certains textes de Joseph Conrad, notamment Au cœur des ténèbres, Kipling aussi, Kipling pour y voir un peu la trace du grand récit de l'impérialisme, et Conrad pour y voir une lecture plus distante, une description plus tragique de cette expérience. Donc elle articule, en fait, où elle met dans une structure d'analyse qui est une structure d'analyse marxiste adaptée à partir des schémas de Rosa Luxembourg, elle met ce qui l'intéresse, c'est-à-dire là encore la restitution d'une aventure humaine avec ces deux aspects, la découverte ou l'extension à un monde nouveau et en même temps la naissance justement à la fois d'un côté de ces théories raciales et de l'autre côté d'aventures pour au fond aussi bien des aventuriers économiques que des classes sociales déracinées qui allaient avoir là une sorte de moyen d'assouvir un désir qui n'était pas seulement un désir économique, mais un désir de domination.
L'émancipation politique des Juifs dans certains pays à la fin du XVIIIe siècle et le débat qui s'ouvrit à son sujet dans le reste de l'Europe centrale et occidentale eurent d'abord pour conséquence une transformation radicale de l'attitude des Juifs eux-mêmes à l'égard de l'État. On peut en prendre pour symbole l'ascension des Rothschild. Ces Juifs de cour furent les premiers à devenir de véritables banquiers d'État. Bientôt, ils ne se contentèrent plus de servir un prince ou un gouvernement déterminé en utilisant leurs relations internationales avec les Juifs de cour d'autres pays. Ils décidèrent, et c'était une nouvelle politique, de s'établir sur un pied international, de manière à servir simultanément les gouvernements d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Autriche. Ce comportement sans précédent était dans une large mesure une réaction des Rothschild face au danger d'une véritable émancipation qui, avec l'égalité, risquait de ne faire des Juifs que des citoyens de leurs pays respectifs et de détruire du même coup leur position européenne et ses avantages sur lesquels avait reposé la situation des banquiers juifs.
Schnitzel mit der Lage werden und das Schaukraut. Ey, der Filuten sagt der Filerfen. Ein Tomelier wie ein Straff. Ein der Filzen sagt der Klütz. Ey, die Fleiner Straff mit der Ach.
Ballone.
Ballone war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt der Hüben. Ein der Straff mit seiner Klatsch. Ey, der Straff mit seinen Gedanken da. Mit seiner Tratsch, mit Gedanken, meiner Täter, wieder straffen, die straffen, sie straffen!
Pierre Bourette, c'est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Hannah Arendt, Pierre Bourette, à qui l'on doit notamment l'édition de Eichmann à Jérusalem et des origines du totalitarisme chez Gallimard dans l'excellente collection Quarto. Pierre Bourets, dans la partie sur l'antisémitisme, dans les origines du totalitarisme, Hannah Arendt montre que l'antisémitisme appartient à la préhistoire du totalitarisme, qu'il correspond à un des problèmes non résolus de l'époque. Il y a d'ailleurs un caractère polémique, hein, ou page oui. consacrée à l'antisémitisme. Elle dit qu'on ne peut pas accepter la thèse de juif, simple bouc émissaire récurrent. Hein, elle ne peut pas accepter ce qu'elle appelle l'innocence parfaite des victimes, parce que chaque groupe humain, dit-elle, a sa part aux affaires du monde et demeure co-responsable de ce qui lui arrive. Et elle va jusqu'à dire que les juifs auraient trouvé dans l'antisémitisme un moyen providentiel de maintenir leur unité au moment où leurs valeurs dépérissaient en se laïcisant. Et puis, il y a aussi cette dimension nationale chez Hannah Arendt et la question du déracinement, ceci doublé du fait que les Juifs représentent en général la richesse et le cosmopolitisme qu'on entend détruire, Pierre Bourets.
Oui, alors, en un mot, je crois que la thèse du livre est fausse. Pour dire les choses vraiment en un mot, je crois que la thèse de la première partie du livre est vraiment fausse. Mais je la résume quand même, vous l'avez dit, je la dépoint un tout petit peu. Il y a un peu une double dialectique. Hein. Elle pense que l'âge d'or des Juifs dans les sociétés modernes, c'est le moment où d'un côté l'État-nation a besoin des Juifs et leur accorde une sorte de monopole de l'accumulation du capital et surtout du rôle de banquier. De l'autre côté, les Juifs ont besoin de l'État-nation parce qu'ils ont déjà perdu leur identité communautaire, historique, et ils ont besoin d'une autre place dans la société. Et cette dialectique, elle est tragique parce que, justement, c'est là qu'il y a une articulation très forte entre antisémitisme et impérialisme. C'est qu'au moment où le capitalisme va devenir impérialiste, il n'aura plus besoin des Juifs. Il aura besoin d'autre chose dans cette logique d'expansion mondiale. Et les Juifs vont payer très cher. C'est là qu'elle pense qu'ils ont une responsabilité. Le fait d'avoir acheté une sorte de sécurité sociale, une sorte de reconnaissance sociale dans les sociétés, dans l'État-nation, en n'assumant pas la recherche d'une autonomie politique. Alors de ce côté-là, elle est restée très sioniste, au moins jusqu'en... Elle a déjà des problèmes avec le mouvement sioniste à partir de 1944.
Mais rappelons qu'elle l'est depuis les années 30, hein, qu'elle travaillait pour des organisations sionistes dans
absolument,
les années 30.
Elle a travaillé à New York pendant ses premières années dans une revue, l'Aufbau, qui était la revue des juifs allemands immigrés. Elle a été elle a soutenu le mouvement sioniste avec une idée, une obsession sur laquelle elle avait tout à fait raison. C'est qu'elle voulait justement qu'il y ait une armée juive. Elle voulait que le peuple juif, d'une manière ou d'une autre, participe au combat contre Hitler pour ne justement pas rejouer cette histoire où il paie une sorte de protection sociale par l'absence d'autonomie politique. Et donc là où la dialectique qu'elle décrit dans l'antisémitisme devient tragique, bien c'est au fond que l'État-nation et les juifs, l'équivalent un peu des juifs de cour dans les sociétés justement capitalistes européennes, vont disparaître, vont être détruits en même temps. Vont être détruits en même temps parce que l'État-nation va se décomposer dans cette aventure de l'expansion coloniale et de l'impérialisme, et les juifs qui étaient nécessaires à cet État-nation vont être balayés par ce grand mouvement historique. Alors, le point quand même dans tout ça, c'est qu'en un certain sens, Arendt non seulement prend au sérieux, mais d'une certaine façon valide quelques-uns des stéréotypes de l'antisémitisme.
C'est ce que j'allais vous dire.
La première thèse, l'idée que les Juifs sont entrés dans les sociétés modernes occidentales en devenant des banquiers, c'est un vieux stéréotype antisémite. Qui l'a conduit d'ailleurs à dire des choses qui sont hallucinantes, hein, parce que elle finit en gros par dire que
le texte que j'ai lu est en lui-même d'ailleurs hallucinant.
Hein, il est hallucinant. Il veut dire quoi ? Il veut dire que les Juifs ont remplacé le Messie par les Rothschild, ce qui est une thèse complètement grotesque. Bon, ça n'explique strictement rien s'agissant du destin, de la situation historique et de ce qui va arriver à la grande majorité des Juifs d'Europe qui étaient à l'Est, qui étaient dans les shtetls de l'Europe de l'Est. C'est cette idée qu'ils avaient remplacé le Messie par les Rothschild et que leur fierté historique, c'était non plus de croire à leur valeur mais de penser qu'ils étaient un peu les maîtres du monde grâce à cette grande famille qui avait su s'imposer à l'échelle de l'Europe, c'est une idée qui est totalement grotesque. Bon, elle valide aussi une deuxième chose, c'est que dans cette dialectique de décomposition et de perte d'influence des Juifs, elle pense qu'il y a un âge, un peu un âge moyen, une période de transition, qui est celle où les États-nations modernes n'ont plus besoin d'eux comme banquiers, mais ils ont encore besoin d'eux comme diplomates, comme intermédiaires pour cette diplomatie un peu informelle. Et ils le font pourquoi? Ben parce que justement, ils sont un peu partout en Europe. Là encore, autre stéréotype. Le juif cosmopolite qui manipule un peu les choses dans l'ombre, derrière les dirigeants, par ses réseaux, par ses connivences. Bon, là aussi, c'est une thèse qui est complètement improbable. Par ailleurs, donc effectivement, vous le disiez aussi, il y a cette polémique, il y a cette chose qui est là, je crois, une des mauvaises passions qu'il apporte dans ce livre. Il y en a d'autres qui sont des passions qui donnent leur souffle à ce livre, ce que je disais tout à l'heure. Une des mauvaises passions, c'est que déjà, à partir, je crois, d'une expérience qui est très forte, qui est une expérience d'agacement vis-à-vis d'une partie des intellectuels juifs allemands au début des années 30, presque une sorte d'écœurement devant la manière dont la bourgeoisie juive parisienne accueillait des gens comme elle et accueillait aussi des gens plus pauvres qui étaient devenus des sans-patrie. Là, elle a eu une expérience d'agacement qu'on comprend très fort. Et c'est ça la pulsion qui la porte à défendre cette thèse selon laquelle elle va pas tout à fait jusqu'à dire que l'antisémitisme, c'est la faute des Juifs, mais elle va nettement jusqu'à dire que les Juifs ont une sorte de responsabilité dans le développement de l'antisémitisme, pour la raison que vous signaliez. Hein, c'est le fait que, bien, au bout d'un certain moment, n'ayant plus d'autre chose pour avoir une identité collective, ils se sont attachés à l'idée qu'ils étaient les éternels boucs émissaires.
Alors néanmoins, Viaboretz, Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme, élabore ce qu'elle appelle, revient sur le processus de construction d'ennemis objectifs. Et dans quelle mesure, elle explique dans quelle mesure le régime totalitaire repose sur la construction d'ennemis objectifs, au nombre desquels il faut naturellement compter, peut-être le premier d'entre eux, le juif, et je substantialise à dessein, en l'occurrence, ce terme. Vous avez parlé d'Hannah Arendt, romancière, entre guillemets, enfin romancière sans roman. On va entendre une page incontestable, en l'occurrence, d'un authentique romancier, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une page de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, qui, en un sens, illustre précisément cette thèse d'Arendt en revenant sur les épidémies d'arrestations arbitraires et le fait qu'il n'est pas plus de raison d'arrêter celui-là plutôt qu'un autre. Écoutez.
Au plus fort des épidémies d'arrestations, quand les gens, partant pour leur travail, faisaient chaque jour leurs adieux à leur famille, car ils ne pouvaient être assurés d'être de retour le soir, même alors, presque personne ne prit la fuite. Il y eut quelques rares cas de suicide. C'est tout ce qu'on leur demandait, à mouton docile, loup glouton. Cette attitude résultait encore d'une autre cause, l'incompréhension du mécanisme des épidémies d'arrestation. Le plus souvent, les organes n'avaient pas de raison majeure d'arrêter ou d'épargner celui-ci plutôt que celui-là. Ils se contentaient d'exécuter un plan de production. L'exécution pouvait répondre à certaines règles, elle pouvait tout aussi bien revêtir un caractère fortuit. En 1937, à Novotcherkassk, une femme entra dans la salle d'accueil du NKVD pour demander ce qu'il fallait faire d'un nourrisson dont la mère, sa voisine, était arrêtée. « Attendez un moment, lui dit-on, va voir. » 2 heures d'attente environ, et on s'empara d'elle dans la salle d'accueil pour la jeter en cellule. Il fallait d'urgence remplir la norme. On manquait de collaborateurs à expédier par toute la ville. Et voilà que cette femme se trouvait déjà sur place. En sens inverse, près d'Orcha, le NKVD était venu arrêter André Pavel, un Letton. Sans ouvrir la porte, il sauta par la fenêtre, réussit à s'enfuir et s'en alla droit en Sibérie. Et il eut beau y vivre sous son propre nom, et il ressortait clairement de ses papiers qu'il était d'Orcha, il ne fut jamais mis en prison, ni convoqué par les organes, ni soupçonné de quoi que ce fût. Il faut savoir qu'il y a 3 espèces de poursuites, fédérales, républicaines, provinciales. Et lors de ces épidémies, on n'aurait pas dépassé le niveau provincial pour la moitié environ des personnes arrêtées. celui dont l'arrestation était prévue en raison de circonstances fortuites, par exemple sur dénonciation d'un voisin, pouvait facilement être remplacé par un autre voisin. Quiconque, pris par hasard dans une rafle ou dans un appartement servant de souricière, et qui, suivant l'exemple d'André Pavel, avait eu le cran de fuir dans l'instant, avant le premier interrogatoire, ne fut plus ni recherché, ni cité à comparaître. Quiconque restait, attendant que la justice l'emporte, était bon pour une peine de déportation.
Vous avez 20 minutes.
C'est pourquoi ?
Madame Meineke, un mot à quiconque de votre part. Et votre fille perd sa place à la fac de médecine dès demain. Est-ce que vous m'avez compris ?
Oui.
Faites envoyer un cadeau à Madame Meineke en échange de son silence.
Voilà, Pierre Bourette, c'est un extrait de La vie des autres, film remarquable de Florian Henkel von Donnersmarck, qui décrit l'installation de micros dans l'appartement de celui qu'on prétend écouter et qu'on soupçonne de collusion avec l'Ouest, ce qui finit d'ailleurs par devenir exact, pour illustrer ce texte de Solzhenitsyn. La clé, les signes distinctifs, les marques de l'idéologie totalitaire ou d'un système totalitaire chez Hannah Arendt, c'est l'idéologie, c'est la terreur, c'est également ce qu'elle appelle la désolation, et puis l'invention d'une menace. Une fois, dit-elle, l'extermination des ennemis réels achevée et la chasse aux ennemis objectifs ouverte, alors seulement la terreur devient la substance réelle des régimes totalitaires. L'expression de substance réelle est ici très importante, hein, Pierre Bourette.
Oui, absolument. Vous avez admirablement choisi et les textes et les musiques.
Grâce en soit rendue à Midia Portis-Guérin, François Salmeron, Adèle Van Rett, Mathilde Unger, j'en profite, et Géraldine Mosna-Savoie qui travaillent avec moi et qui choisissent ces extraits que vous saluez. Hein.
Bravo, et bravo aussi pour le choix des textes, parce que celui-là, évidemment, résume ou saisit parfaitement la troisième partie. Donc, je disais que la première, en gros, à mes yeux, est pour l'essentiel fausse. La deuxième est monumentale, extraordinairement impressionnante, mais un peu improbable. Et la troisième est vraiment la partie, je crois, la plus forte et qui devient de plus en plus forte en s'approchant de la fin. Et c'est pour ça que je crois qu'il est bon de réfléchir à la manière dont elle a écrit le dernier chapitre qui s'appelle, dans le chapitre qui s'appelle le totalitarisme au pouvoir, le dernier chapitre, le dernier point qui s'intitule la domination totale, vous l'avez parfaitement saisi, c'est-à-dire que Arendt a eu là la grande intuition, parce qu'à l'époque, il fallait avoir de l'intuition. Et c'est pour ça que le texte de Solzhenitsyn dit bien quelque chose par rapport à notre sujet. Elle avait l'intuition de deux choses, de la terreur quotidienne, c'est-à-dire de cette manière dont le pouvoir entre dans les tout petits espaces de la vie des individus, le point ultime étant le père qui dénonce son fils, le fils qui dénonce son frère, etc. Ça, c'est dans les microstructures de la société, et quand on aura des documents comme les documents de Solzhenitsyn, comme le livre, document, c'est le terme, est pas bon, mais quand on aura des témoignages comme ceux de Solzhenitsyn et quelques autres, on verra que là, elle a saisi quelque chose d'extrêmement fort. Et puis, il y a les toutes dernières pages, alors qui sont extraordinaires, qui sont les pages sur les camps. C'est-à-dire que pour elle, l'essence du totalitarisme, du point de vue social, du point de vue de l'expérience des individus, c'est d'un côté cette maîtrise de la vie quotidienne des individus, et de l'autre côté, c'est l'extermination de masse, c'est les camps. Là, elle a été très inspirée par le magnifique livre que malheureusement, je crois, on lit plus beaucoup de David Rousset, les jours de notre mort, dont elle donne deux longues citations, mais dont elle a saisi quelque chose de très fort. Les pages sur les camps dans ce tout dernier chapitre, c'est paradoxal, mais sont d'une très très grande beauté en un sens. Autant le reste du livre, et François Furet disait, écrit à la diable, il est littérairement, justement, c'est un peu paradoxal, parce que dans une structure un peu romanesque, littéralement, il n'est pas très beau, parce qu'elle ne maîtrise pas encore très bien l'anglais, c'est un anglais qui est un peu un anglais qui a une syntaxe allemande, donc un peu lourde, mais ces dernières pages sont absolument admirables. Elles sont admirables de précision phénoménologique, de sensibilité, de capacité à saisir le dénuement des individus, à saisir la manière dont, comme elle le dit, le fond de l'expérience totalitaire, dont les camps sont le laboratoire, c'est la croyance dans le fait, non pas que tout est permis, ce qui était la maxime du nihilisme, mais que tout est possible. Tout est possible, ça veut dire réduire, détruire le plus profond de l'humanité de l'homme. Et là, on pourrait parler un peu du dernier chapitre qui a été ajouté après la première édition, qui s'appelle « Idéologie et terreur » et qui, lui, est vraiment génial, je crois.
Et qui est effectivement magnifique. C'est-à-dire qu'à sa lecture, il faut le dire à ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est que l'aspect touffu de ce livre, et qui inclut d'ailleurs le chapitre dont vous parlez, cet aspect touffu, foisonnant, parfois, allez, un peu lourdingue, stylistiquement.
Oui, c'est ça.
Il ressort de la lecture, il ressort paradoxalement de cette lecture le sentiment d'une grande clarté d'analyse. Pour le coup, oui. il nous reste 2 minutes, Pierre Bourrette,
oui.
Et je voudrais quand même revenir un instant sur cette question de l'ennemi objectif. Ça n'est pas l'ennemi objectif qui justifie le régime, quoi qu'il en dise, c'est l'inverse évidemment, c'est le régime qui crée des ennemis objectifs. Les nazis avaient prévu de s'en prendre aux Polonais dans son ensemble une fois les juifs exterminés. Les bolcheviks s'en prennent d'abord aux classes dirigeantes, puis aux koulaks au début des années 30, puis aux russes d'origine polonaise, puis les tatars et les allemands pendant la guerre, etc. etc. Et puis les juifs. L'ennemi objectif n'est jamais totalement choisi au hasard, il correspond aux besoins de la propagande pour pouvoir faire des mises en scène d'aveux publics où le sujet reconnaît sa subjectivité, donc sa culpabilité. C'est vraiment la pierre angulaire du système totalitaire.
C'est la pierre angulaire. C'est pas seulement la clé de la propagande, c'est la clé de ce qu'elle appelle les lois de mouvement. C'est-à-dire qu'elle pense que ce qui fait tenir pendant un certain temps ces systèmes totalitaires, c'est le fait que au-delà de l'idéologie, au-delà de la propagande, parce que ça finalement ça peut ressembler aux tyrannies classiques dont on peut penser qu'elles se décomposent de l'intérieur, au-delà de ça, c'est cette manière de donner une sorte de sens à l'histoire et d'articuler là-dessus un mouvement. Le fait que le système à la fois reste immuable et se transforme, et là, effectivement, il repose sur cette fabrication d'ennemis objectifs. Et on voit effectivement comment il se déplace. Le système a à chaque fois besoin de nouveaux ennemis. Dans l'histoire de l'Union soviétique, c'est d'abord on élimine la classe dirigeante, ensuite il y a un petit moment où on s'élimine soi-même, parce qu'il faut éliminer les témoins, les vieux bolcheviks, et puis ensuite on élimine les koulaks, ça donne la grande terreur, qui est quelque chose d'absolument terrifiant. Et le système commence à s'épuiser à partir du moment où il n'y a plus cet espace, ou en tout cas cette vision d'un ennemi objectif commence un peu à se décomposer. Dans le système nazi, effectivement, il y avait une fois le projet de l'extermination des juifs, il y avait d'autres peuples qui attendaient leur tour, parce que il y a cette idée, oui, d'ennemi objectif dans un mouvement historique qui est un mouvement de l'histoire. D'un côté, de l'histoire, c'est le modèle soviétique, c'est le modèle du communisme. De l'autre côté, de la nature, c'est l'idée que les individus, y compris les partis, y compris le parti, y compris les dirigeants, expriment une loi de l'histoire, une loi de mouvement, et qui ne s'arrête jamais et qui a besoin de désigner, de reconstruire perpétuellement des ennemis, entre guillemets, objectifs, parce que délimités par l'histoire, délimités par la nature.
Wann wird man je verstehen? Wann wird man je acheter. Sag mir, wo die Mädchen sind.
Elle est comme Hannah Arendt. Elle parle le français, l'anglais et l'allemand. D'ailleurs, nous avons entendu cette chanson « Où vont les fleurs ?», chanson de Marlène Dietrich, interprétée par Marlène Dietrich, dans les trois langues. Il était normal de l'entendre en allemand à l'issue de cette semaine. Grand merci, Pierre Bouretz. Je rappelle, Pierre Bouretz, que vous êtes le maître d'œuvre de l'édition des Origines du totalitarisme et d'Eichmann à Jérusalem chez Gallimard dans la collection Quarto. Je signale également Qu'appelle-t-on philosophé de votre part. Qu'appelle-t-on philosophé, c'est votre œuvre, donc c'est dans la NRF.
Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen.
Allez, Hannah Arendt, c'est fini provisoirement dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. On passe tout de suite au journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël, on change totalement de décor puisqu'on parle de théâtre. Aujourd'hui, et même des théâtres contemporains entre mythes et idéologies. Bonjour Isabelle Barberis.
Bonjour.
C'est vous qui êtes l'auteur de ce livre sur les théâtres contemporains, en pluriel donc, qu'on trouve aux éditions PUF, dans la collection Inventions philosophiques. Vous enseignez le théâtre contemporain à l'Université Paris-Ouest, et dans ce livre, vous proposez de penser le théâtre contemporain, non pas seulement en tant qu'art vivant, ce qu'il est indéniablement, mais comme se situant au croisement de l'esthétique, de la politique et de l'économie. Et c'est cette réflexion qui vous conduit à énoncer le constat que vous faites du mépris du monde politique envers les arts de la scène. Vous essayez donc de vous inscrire en faux contre cette attitude et de défendre le théâtre. Mais alors comment s'y prend-on une fois qu'on a fait ce constat? Quels arguments avance-t-on en faveur du théâtre pour le défendre?
Oui, alors peut-être... Comment s'y prend-on d'une manière argumentative? D'abord, je m'y suis prise d'une manière pratique, tout simplement en fréquentant le théâtre, en étant une spectatrice de théâtre. Et il y a eu un moment dans mon parcours de spectatrice de théâtre qui est assez ancien maintenant, dans cette expérience de spectatrice, où je me suis sentie régénérée au contact d'une jeune scène française et de la découverte d'artistes dont les travaux, les démarches, m'ont servi de matériaux pour ma réflexion. Ensuite, il y a une thèse présupposée à cette réflexion qui est très simple et toutefois essentielle, c'est la nécessité du théâtre dans les sociétés que nous connaissons, une nécessité qui n'est pas si évidente, effectivement. Au regard des politiques culturelles actuelles, je pense notamment, de manière très simple, au budget de la culture que nous connaissons à présent pour l'année 2011, qui, en novlangue administrative, consolide le budget du spectacle vivant, consolidation qui est bien évidemment un rognement venant s'ajouter à ceux des années précédentes, étant donné les paramètres extérieurs, économiques extérieurs et notamment l'inflation. Voilà, donc diminution des budgets et en même temps nécessité philosophique, nécessité sociale du théâtre que j'ai moi-même éprouvé donc dans ces rencontres esthétiques, artistiques, sociales, en allant au théâtre, en me rendant au théâtre.
Alors comment définissez-vous cette nécessité même dont vous parlez? Vous dites que notre société actuelle a besoin du théâtre, que le théâtre est nécessaire pour la société. Comment définissez-vous ce lien entre le théâtre et la société, puisque vous le qualifiez de nécessité? De quelle nécessité s'agit-il?
Oui, tout à fait. Alors là, on entre dans l'aspect un peu plus théorique de cet ouvrage, que j'ai intitulé « Théâtre contemporain au pluriel », par référence aux singularités artistiques que j'ai rencontrées, « Mythes et idéologies », en citant le sociologue du théâtre, dont on a un petit peu oublié les apports, qui était Jean Duvigneau, et qui pensait le théâtre comme le lieu, véritablement, où s'invente la société de demain. Un lieu, disait-il, de transition, voire même de rupture, où les artistes intensifient les contradictions sociales, quand bien même les œuvres scéniques ne parlent pas directement des problèmes sociaux. Par conséquent, donc cette conception du théâtre comme lieu d'intensification des contradictions, prise en charge essentiellement par les acteurs, parce que moi c'est l'acteur qui m'intéresse, permet à de nouvelles formes d'advenir et à la société de demain véritablement de fermenter et de s'inventer.
Donc c'est-à-dire que le théâtre ne serait pas seulement le reflet, l'expression de la société, mais que le théâtre en retour pourrait influer sur l'évolution de la société elle-même.
Bien sûr, et cela de manière de manière très, très violente ou de manière difficile. Alors cette violence, à mon sens, elle est prise en charge par l'acteur. Ce livre essaye de rendre hommage à la fonction mémorielle de l'acteur, qui est une fonction de bouc émissaire, de prise en charge de la violence sociale, puisque l'acteur est celui qui, à partir des normes, à partir des autorités, à partir de ce qui est préformé, essaye de performer quelque chose de nouveau, quelque chose pour demain, et donc de créer ce qu'on appelle, ce que certains penseurs, un penseur notamment auquel je pense, appelait une utopie concrète. Et cette invention formelle, elle travaille sur notre passé, d'où l'importance aussi de la dimension mémorielle de la scène contemporaine très présente. L'acteur actualise des choses du passé, de la mémoire collective, pour inventer donc ce lendemain, pour sortir de l'engrenage, pour éviter le retour du même, et qui est le fondement même de la tragédie.
Merci beaucoup Isabelle Barberis. Le titre de votre livre, je le rappelle, c'est « Théâtre contemporain » au pluriel, donc « Mythe et idéologie ». Je renvoie les auditeurs à la lecture de ce livre donc pour comprendre de quels mythes il s'agit, de quelles idéologies vous soutenez et dénoncez à la fois. On trouve ça aux éditions PUF dans la collection « Inventions philosophiques ».
On finit la semaine avec un numéro... Ah oui, sur Martha Nussbaum.
Et oui, le dernier numéro de la revue « Raison publique », dirigé par le philosophe Patrick Savidan, consacre un dossier spécial à la philosophe Martha Nussbaum, qui nous avait fait l'honneur de participer au Nouveau Chemin en octobre dernier. Alors, outre son travail sur Aristote et sur la nécessité du recours à la littérature pour la philosophie, Martha Nussbaum réfléchit également sur la formation de l'espace public démocratique et sur la philosophie politique libérale en général. Le dossier qui est ici proposé est coordonné par Solange Chavel, qui traduit en français les livres de la philosophe. Et le dossier propose d'aborder l'œuvre de Martha Nussbaum par la question de l'articulation du public, du privé, et des émotions, donc public, privé et émotions, ce qui est une manière de mettre en lumière l'originalité de sa pensée qui s'inscrit à l'articulation de la philosophie politique et de la philosophie morale. Pour Martha Nussbaum, le privé n'est pas un donné, il est toujours à construire, à constituer, en prenant en compte l'importance décisive des émotions dans la conception que nous nous faisons de la justice politique. Donc on voit qu'on n'est pas bien loin de la pensée morale même de Martha Nussbaum. Alors le dossier s'intitule « Émotions privées, espace public ». C'est une nouvelle bonne occasion de découvrir la pensée de Martha Nussbaum, mais vraiment ne ratez pas ces occasions car tout dans le travail de Martha Nussbaum gagne à être connu. Le dossier en fait plus de 220 pages, il est rédigé par une dizaine de philosophes, donc c'est vraiment consistant. Il y a même un autre dossier dans cette revue qui s'appelle « La littérature pour la jeunesse, une école de vie ». En tout, c'est donc deux gros dossiers très intéressants, 400 pages, et c'est la revue Raison publique, ça ne coûte que 14 € et c'est en librairie en ce moment.
Et c'est une excellente revue. Émotions privées, espace public, ça pourrait être d'ailleurs le titre d'un essai d'Anna Arendt. Voilà, merci à tous, c'est la fin donc de cette semaine sur Arendt, je ne m'y résous pas. Une semaine que vous pourrez retrouver en tout cas dans son intégralité sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et bibliographie. Une bibliographie donc aussi complète que possible, où vous trouverez tout ce qu'il est nécessaire de lire pour découvrir la pensée d'Arendt et en approfondir la découverte. Quant au téléchargement, il concerne les émissions de la semaine et l'écoute en ligne, c'est les émissions du mois. Changement de décor la semaine prochaine. Nous vous parlerons de l'esprit, la notion d'esprit, le fait immatériel de l'esprit, depuis l'élan vital jusqu'au mot d'esprit, de la métaphysique spiritualiste de Ravesson aux fulgurances de Sacha Guitry. C'est le programme, que dis-je, le bonheur de la semaine prochaine. Un grand merci à l'issue de cette semaine à Anne Brissier, notre lectrice de la semaine, à Midia Portis-Guérin, notre merveilleuse réalisatrice, et comme toujours, la main sur le cœur, à toute la fine équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.